Nicolas Lasserie, revenons sur les différents records qui ont été touchés ce soir à Londres, à Paris, à Francfort, à Amsterdam. Tout va bien en fait en Europe sur les marchés actions.
Tout à fait. En fait, on est dans un environnement quasiment idéal en Europe. On peut parler de Goldilocks à l'européenne. En fait, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a eu depuis une quinzaine de jours des indicateurs avancés qui sont clairement meilleurs, hein, avec un PMI qui est ressorti au-dessus de 50 en Europe, tiré par les services. On a une saison de publication de résultats qui est également plutôt bonne, hein, avec un taux de surprise moyen de 5%. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et puis, on approche du moment où les banques centrales vont commencer à baisser leurs taux. La BCE devrait le faire d'ici cet été. La Banque d'Angleterre est également sur le point de baisser ses taux. Donc on est dans un environnement à la fois en termes de croissance et de politique monétaire qui est intéressant et qui est favorable, ce qui aide les marchés actions européens, pour une fois et ce qui est rare, progresse davantage que les marchés actions américains.
Avec notamment une performance de plus de 9,5% depuis le début de l'année pour le CAC 40. Comment vous arbitrez votre portefeuille aujourd'hui, Nicolas Lasserie, dans ce contexte? J'imagine que ça peut être tentant de prendre des prises de bénéfices, mais certaines valeurs continuent de monter jour après jour et c'est compliqué aujourd'hui.
Alors en fait, ce qu'il faut faire, je pense, c'est se positionner sur la rotation sectorielle. En fait, on a beaucoup de secteurs qui sont en retard de performance et qui commencent à performer davantage, et avec des publications de résultats qui étaient meilleures, et également un cycle qui est en train de repartir en Europe. Donc ces secteurs cycliques, nous on les surpondère en ce moment. C'est l'industrie, certains pans de la consommation cyclique sur lesquels on peut jouer un rattrapage, également l'immobilier qui a été pénalisé par les hausses de taux successives. Donc ces secteurs-là sont en retard et continuent d'avoir du potentiel. Ensuite, il y a des secteurs sur lesquels effectivement on est plus présent ou moins présent, comme le luxe ou bien même la technologie. À court terme, c'est quelque chose qu'on fait dans le portefeuille, en attendant d'avoir plus de visibilité sur la croissance au deuxième trimestre.
Du côté de GSD Gestion, comment ça se passe? Pierre-David Quenu, on était ensemble il y a un peu plus d'une heure et demie. C'est vrai que là aussi, il faut avoir un côté contrariant pour essayer de suivre un petit peu les différents records.
Effectivement, les records se suivent. Nous, on est attentif à ce que les actions et les entreprises ont fait depuis 2 ou 3 ans, hein, pour un peu voir les performances et voir également comment les résultats se sont organisés. Alors c'est vrai que depuis le début de l'année, on nous annonce catastrophe sur catastrophe sur les marchés. Et puis les résultats d'entreprise, les résultats sont plutôt bons. Donc à partir du moment où les résultats d'entreprise et le T1 a été plutôt bon dans l'ensemble, eh bien le marché suit cette tendance. C'est vrai que également le fait que les banques centrales européennes risquent de baisser leurs taux, c'est un accélérateur et un facteur extrêmement important. Alors attention aux chiffres qui vont arriver notamment mercredi prochain sur l'inflation, et de voir si effectivement ces taux, comme on pourrait le penser, vont baisser. Si tel n'était pas le cas, on pourrait peut-être avoir un petit retournement. Mais en tout cas, à chaque retournement de marché, on s'aperçoit qu'il faut se positionner quand on a des liquidités ou quand on fait un peu de stock picking. Donc sur des valeurs qui n'ont rien fait depuis le début de l'année, on a Stellantis par exemple, L'Oréal, on a Dassault Systèmes, Kering, Sanofi, Roberté, voilà tout un tas de jolies valeurs qui ont des fois un peu déçu dans les résultats, mais au final quand on regarde bien, c'était très temporaire. Et donc sur ces valeurs-là, on peut se positionner à l'achat à partir du moment où on a un horizon moyen terme.
Donc du côté des valeurs, hein, je répète, vous avez cité Stellantis, L'Oréal, Roberté, Kering également, hein, qui sous-performe très clairement le secteur du luxe. Alors là, c'est des paris. On parlera dans un instant de Alstom, mais sur Kering, c'est pareil. Il faut accepter une certaine prime de risque.
Exactement, il faut accepter la prime de risque qui est Gucci. Après, le secteur du luxe dans sa globalité, LVMH, elle est à plus 8, elle est un tout petit peu moins bien que l'indice. Si on n'en a pas, on se positionne encore sur ce titre-là. Il faut dire que voilà, alors Hermès, on a, dès qu'elle baisse, il faut a priori en prendre, mais c'est très difficile quand on a des valeurs qui tous les ans performent et surperforment le marché de rentrer. Mais en même temps, temps, les résultats, quand ils publient leurs résultats, ce sont d'excellents résultats. Donc, il n'y a pas de raison non plus de ne pas y aller à un moment donné.
Le temps passe très vite. Il nous reste un peu moins de 8 minutes, messieurs. Mais quand même, c'est intéressant de comparer ces convictions d'un point de vue technique. Gilles Santacreux, par rapport aux différentes valeurs qui ont été citées, Kering, Stellantis, L'Oréal, Robertet, j'imagine que vous en suivez au moins une. Quelle est la valeur d'un point de vue technique qui offre du potentiel ?
Alors, on parlait de Kering, je la regarde cette valeur, mais elle reste encore dans une dynamique baissière. Il faudrait au moins que l'on repasse au-dessus des 340 euros, car même si effectivement on sent qu'elle n'a rien fait et qu'elle est un petit peu en retard en termes de performance, on a des signaux techniques qui ne sont pas très bon hein, actuellement. Donc effectivement, on peut jouer la recovery hein, sur ce genre de titre, mais il faut tout de même attendre les signaux, je dirais chartistes, les signaux techniques pour au minimum repasser en tendance haussière. Et tant que l'on est sous ce niveau des 340, eh bien ça me semble difficile hein, d'un point de vue technique en tout cas. Donc il y a d'autres titres à surveiller. Moi je regarde le secteur du luxe hein, et notamment LVMH qui sous-performe depuis quelques temps et dont on sait qu'il a énormément de potentiel, mais là aussi, on est toujours dans une phase de consolidation. Donc sur ce genre de titre, effectivement, il faut rester à l'affût, observer quand les signaux de retournement à la hausse vont se préciser pour essayer de rentrer sur ces titres et jouer la reprise du mouvement haussier.
Nicolas Lasserie, un titre qui s'est distingué très clairement cette semaine, c'est Alstom. Alors là aussi, comme Kering, il faut accepter une certaine prime de risque. Hein, c'est un pari, un gros pari. En tout cas, le marché y a cru mercredi. Le titre a pris 9%, alors que la restructuration va être massive quand même pour les actionnaires existants.
Oui. Bon, alors en fait, ça faisait longtemps qu'on attendait une augmentation de capital de la part d'Alstom. On attendait de connaître le montant et la part qui allait être réservée à l'hybride et aux actions. Donc on a eu finalement un montant globalement en ligne hein, d'un milliard d'euros pour la partie equity et pour la partie hybride 750 millions, sachant que ça pourrait être une émission qui devrait plutôt bien se passer dans un contexte où les fonds obligataires ont des liquidités et doivent investir. Donc plutôt un signal neutre à ce niveau-là. En même temps, Alstom a présenté ses résultats qui étaient globalement en ligne avec les attentes. Il y avait une surprise assez positive sur le free cash flow qui a été un peu moins négatif que prévu. Et je pense que c'est un élément également qui a rassuré les investisseurs. Maintenant, on attend quand même de savoir hein, quelles sont les modalités de cette augmentation de capital, à quel cours elle va être faite, le timing également pour voir s'il faut ou non commencer à se réintéresser à Alstom. C'est vrai qu'on peut être au début d'une histoire d'amélioration. Mais cela prendra du temps. Hein. Le free cash flow au premier semestre ne va pas être bon. On a encore des contrats qui doivent être exécutés. Il faut voir si ces contrats se passent bien et si la stratégie du nouveau management porte ses fruits. Donc je serai quand même prudent, mais à suivre.
Voir à suivre.
La direction va se poursuivre.
Avec notamment la direction qui va se mettre en place à partir de cet été. L'ancien patron de Safran, Philippe Petit-Collin, qui va prendre la présidence de Alstom. Du côté de GSD Gestion, quelle est votre opinion sur ce titre, Pierre-David Quenu, Alstom?
Rapidement, Alstom va mieux, certes, ça c'est une évidence, mais voilà, elle est toujours dans une étape de redressement, donc on reste également attentif et on n'est pas encore positionné à l'achat, sachant qu'effectivement le titre a fait plus 40 depuis le début de l'année, mais qu'on est très largement en baisse sur 3 ans, moins 65% sur 3 ans, donc on a le temps de prendre le train en marche, j'ai envie de dire.
Comme tous les soirs, la BFM Business vous apporte des idées de valeur hein, pour remplir votre portefeuille. Vous, auditeurs, téléspectateurs, vous, Nicolas Lasserie, là, c'est une restructuration sur laquelle vous croyez, Pierre et Vacances.
Oui.
Alors là aussi, le parcours a été très compliqué, hein, opération capitalistique qui a été très lourde à la sortie du Covid. Ouais, mais depuis, vous voyez des perspectives.
Oui, alors la restructuration financière, elle est totalement terminée. Et ce qu'on aime bien, c'est qu'au-delà de la restructuration financière, il y a eu également une montée en gamme de Pierre et Vacances, notamment de Center Parcs et d'Adagio, et que c'est en train de se voir hein, dans les chiffres avec des prix qui sont en hausse de l'ordre de 7% lors de la dernière publication, ce qui est un signal clairement positif. Et puis on a une société qui a donné des guidances assez prudentes au marché sur lesquelles on pense qui a un potentiel de révision en hausse lors du CMD qui va se tenir au cours à la fin du mois de mai.
Capital Market Day.
Donc CMD, oui, Capital Market Day. Donc c'est un élément clairement de soutien pour nous. Et puis on a une société qui est sous-valorisée clairement, hein, puisqu'elle se paye 5 fois le résultat opérationnel. C'est très bas et un résultat opérationnel sur lequel on voit encore des perspectives de hausse. Donc dans une perspective de retour sur les petites et moyennes valeurs, on est clairement positif sur ce titre.
Ben justement, le secteur du tourisme a fait l'actualité aujourd'hui avec IAG, la maison mère de British Airways, de Vueling, de Iberia, qui a publié ses résultats trimestriels avec Pierre-David Quenu. Bon, un trimestre qui est toujours compliqué, hein, le début de l'année, les trois premiers mois de l'année pour le secteur aérien. Néanmoins, il y a eu une bonne surprise chez IAG. Le secteur aérien, c'est un secteur qu'il faut jouer en bourse.
Alors, depuis le post-Covid, c'est pas un secteur qu'il faut jouer, clairement, hein, quand on voit le résultat, que ce soit Air France ou d'autres, voilà, c'est pas un secteur sur lequel on est présent, mais peut-être que c'est le début d'un retournement de situation. En tout cas, on en a l'impression, et c'est vrai que les résultats de IAG sont plutôt encourageants, hein. On est sur une perte de 4 millions d'euros sur les trois premiers mois, alors que l'année dernière, sur la même période, c'était 87 millions d'euros. Donc voilà, son chiffre d'affaires a progressé de plus de 9% sur ce trimestre. Et puis on nous annonce que malgré les problèmes de budget des ménages, les familles donnent priorité à leurs vacances. Donc de toute évidence, les billets d'avion sont achetés, comme on peut dire. Et puis il y a également un projet d'être via Iberia et via l'acquisition du groupe espagnol Tourisme Globalia, d'être le leader sur les liaisons avec l'Amérique latine. Donc tous ces éléments-là sont favorables à moyen terme et les résultats sont plutôt réconfortants, j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être un secteur sur lequel il faut commencer à investir sur du moyen terme.
Voilà donc pour le secteur aérien suite à la publication de IAG. Il nous reste un peu moins d'une minute, mais quand même parlons d'une valeur en dehors de Téléperformance qui gagne 3,8% suite à un changement de recommandation. Le Grand, là aussi, Nicolas Lasserie, avec des brokers qui reviennent sur cette valeur, 103,35€ plus 2,8%.
Oui, on sera peut-être un peu moins optimiste hein, que ces brokers. En fait, plusieurs raisons. Hein. Le Grand a déjà déçu hein, sur sa croissance organique au premier trimestre. Elle a décru de 5%, donc c'était très décevant. Et ce qui pèse, c'est l'exposition aux États-Unis au segment des bureaux. Et puis, ils ont aussi une exposition au segment des data centers, donc qui en ce moment est booming, mais avec une exposition qui est moins bonne que ses comparables. Schneider et ABB, en fait, eux sont exposés, sont pas exposés à la réfrigération des data centers. C'est ce segment-là qui croît. Donc, pour s'exposer au secteur, on pense qu'il y a des meilleurs titres sur lesquels il y a plus de potentiel et sur lesquels les tendances sont plus fortes.
Donc, plutôt Schneider que Legrand, donc.
Tout à fait, oui.
Qui est plus tech, hein, plus tech. Logiciel. Ouais. Et donc Le Grand qui prend 2,8% ce soir à la clôture à 103€ après un relèvement de recommandation sur la valeur. Merci beaucoup Nicolas Lasserie d'être venu ce soir en plateau, gérant action chez Mandarin Gestion. Merci à Pierre-David Quenu qui nous a suivi tout au long de cette émission depuis GSD Gestion et Gilles Santacreux de boursicoté.com.